Bonsoir à toutes et à tous. Face à la reprise de l'épidémie en France, Jean Castex vient d'annoncer un renforcement des contrôles. En déplacement à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le Premier ministre a annoncé des tests obligatoires dans tous les aéroports français pour tous les passagers en provenance d'une liste rouge de 16 pays, dont États-Unis, Algérie, Brésil, Israël, Turquie, mais aucun pays de l'Union européenne. Même si, attention, les Français sont par ailleurs vivement invités à ne pas se rendre en Catalogne où la maladie redouble. Alors pourquoi ce renforcement des contrôles? Faut-il s'inquiéter de cette résurgence de l'épidémie au cœur de l'été? Comment l'expliquer? Faudra-t-il finir par interdire les réunions familiales comme les mariages, accusés d'être responsables de nombreuses nouvelles contaminations en France? C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air, intitulée ce soir « Covid, contrôle renforcé aux frontières ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Claude Crémieux. Vous êtes professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine, et vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire », c'est aux éditions Lavoisier. Martin Blanchier, médecin Blachier, spécialiste médecin épidémiologiste, spécialiste de santé publique, vous dirigez la société Public Health Expertise. Bruno Mégarban, vous êtes chef du service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. Et enfin, Joël Wiesmann, vous êtes médecin généraliste à Paris, membre du syndicat des médecins libéraux CSMF. Martin Blachier, on va commencer avec vous. Le Premier ministre cet après-midi a invité les Français à ne pas se rendre à Barcelone, en Catalogne, où la maladie redouble, on l'a dit. Est-ce que vous, par exemple, c'est vrai, à Lariboisière, vous avez constaté une hausse de ce qu'on appelle, ou un regain de ce qu'on appelle les cas de Covid importés qui viennent de, au-delà des frontières?
Alors, je suis juste Bruno Mégarban, désolé, mais ce n'est pas très grave.
Ah, pardon.
Alors, on va dire, il y a eu quelques rapatriements sanitaires de nationaux qui ont contracté le Covid dans un pays étranger, qui ont été rapatriés en réanimation. À l'inverse, on va dire, à Lariboisière, nous n'avons pas eu de personnes qui vivaient à l'étranger, qui est rentrée asymptomatique ou peu symptomatique et qui finalement qui a développé une forme de Covid en étant en France. Néanmoins, quelques cas relativement rares ont été décrits dans d'autres services en Île-de-France et en PACA, essentiellement à partir de l'Algérie, où des personnes, soit des Algériens vivant en France, soit des expatriés qui attendaient la réouverture des frontières, qui sont rentrés en France avec le coronavirus et qui ont présenté des formes graves secondairement qui ont été admis. Donc ça reste une minorité. La majorité, la quasi-totalité des cas nouvellement contractés en métropole sont des cas attrapés en France par des personnes vivant en France, essentiellement par des contaminations intrafamiliales.
Il n'empêche, Anne-Claude Crémieux, l'autre annonce de cet après-midi du Premier ministre, c'est cette liste de 16 pays. Pour tous les passagers qui viendront de ces 16 pays, il y aura des contrôles renforcés. Ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, qualifiait les aéroports, je le cite, de passoire à Covid. Est-ce qu'il y avait quand même là, dans les aéroports, un trou dans la raquette, comme on dit ?
Non, c'est vrai qu'effectivement, comme le disait Bruno, il y a eu quelques cas de patients qui, effectivement, ont été hospitalisés et dont on a retrouvé que c'était des cas importés, c'est-à-dire des infections qui avaient été contractées en dehors de la France. Et ce qui est vrai, c'est que les médecins s'étaient aussi un peu étonnés du fait qu'il n'y avait pas de test aux aéroports. Effectivement, et pourquoi c'est important d'avoir des tests aux aéroports? C'est parce que, d'une part, on peut identifier les personnes infectées, et d'autre part, ces personnes ont eu des contacts, notamment dans l'avion, les contacts proches, et donc c'est important de pouvoir tracer ces contacts. Donc ça fait partie, je dirais, des mesures test, traçage des contacts et isolement, que d'avoir des contrôles aux frontières.
Et ils seront en capacité, d'ailleurs, les aéroports français, d'organiser ces tests pour tous les passagers d'un avion. Donc, ça fait 300 personnes qui déboulent. Il faudra faire des tests PCR où on met des cotons-tiges. Ça va prendre du temps, j'imagine.
Ce qui a été discuté, c'est la possibilité de faire des tests rapides. Parce qu'effectivement, les gens sont en transit. Ils ne vont pas attendre très longtemps à l'aéroport. Donc, il y a deux possibilités. Soit on dispose de tests rapides qui permettent d'avoir des résultats en une heure. Ce qui, effectivement, je dirais, facilite un peu de retrouver les contacts, si vous voulez, ce qu'on appelle le traçage des contacts. Soit on fait des tests, on a l'identité et le numéro de téléphone des gens et on peut les contacter. Mais ce qui est vrai, c'est que...
C'est le deuxième cas qui va se passer, hein, parce que on va laisser repartir les gens et on les contactera si le test se révèle positif.
Donc on peut contacter les gens et effectivement les personnes qui ont été assises juste à côté, puisque c'est ça qu'on considère comme éventuellement les contacts proches. Mais il ne faut pas oublier que ça avait été mis en place pour le SRAS, c'est-à-dire que quand quelqu'un venait d'un pays qui était affecté, alors on ne faisait pas de test à l'aéroport, mais on prenait l'identité, le numéro de téléphone et la place dans l'avion de tout le monde, de façon justement à ne pas laisser une chaîne de contamination active, parce que ce n'est pas seulement la personne qui arrive infectée, c'est la possibilité effectivement que cette personne sur le sol français infecte d'autres personnes. Et comme là aujourd'hui, ce qu'on essaye à tout prix de faire, c'est d'éviter de nouvelles chaînes de contamination, c'est clair que ça fait partie du contrôle que doivent exercer les autorités sanitaires.
Oui, Bruno Mégarban.
Oui, en fait aussi, il va y avoir des progrès technologiques. Donc effectivement, comme vous dites, avec les RT-PCR actuellement, avec le prélèvement par écouvillon au fond de la gorge, il faut compter 24 à 48 heures pour avoir le résultat, parce que la technologie elle-même prend 6 heures de réalisation. Par contre, des tests salivaires avec des techniques de PCR beaucoup plus rapides pourront même se faire sur place avec un résultat dans les 30 minutes. Et donc ça va faciliter.
Quand est-ce qu'ils seront validés?
Alors, ils existent déjà.
Ils ne sont pas validés.
Ils ne sont pas définitivement validés, mais ils semblent quand même donner d'excellents résultats avec de très bonnes corrélations avec les tests RT-PCR classiques.
Ce sera un tournant, ça, dans la lutte contre la maladie, quand on aura des tests simples, rapides, efficaces et en nombre?
Très probablement. En tout cas, ces technologies, elles pourraient même s'envisager en préhospitalier, par exemple, dans les camions des pompiers, dans les camions des SAMU, dans certains endroits un peu isolés. On pourra faire un test immédiatement et savoir ce qu'il faut faire en termes de prise en charge.
Mais pour l'instant, ce sont les tests à écouvillon qui sont beaucoup plus fastidieux. Martin Blachier, il y avait une rumeur. On se demandait ce matin si le Premier ministre n'avait pas annoncé la fermeture carrément de la frontière avec l'Espagne, hein, où en Catalogne, ils ont reconfiné. Ce qui d'ailleurs posait des tas de problèmes pour de nombreux Français qui ont prévu de passer des vacances en Espagne ou au Portugal. Finalement, il y a simplement une recommandation, essayez de ne pas aller, enfin on est vivement invité à ne pas se rendre en Catalogne. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il eût été plus sage d'ordonner la fermeture des frontières? Au moins, on est sûr comme ça de mettre une frontière étanche avec l'Espagne.
L'impact qu'aurait eu la fermeture de la frontière, il est difficile à estimer. Je pense qu'il est faible. J'ai regardé les courbes Espagne et France. Hein. Ce qui est très amusant, c'est que la dynamique française et espagnole est strictement parallèle. C'est-à-dire qu'on regarde les pays européens, il y a des pays qui sont effectivement qui n'ont pas trop de reprises. Par exemple, l'Italie, il y a une courbe encore qui est vraiment collée à l'axe des abscisses. Mais la France et l'Espagne, effectivement, ont un petit redémarrage et qui est très, très similaire l'un des autres. Et puis, moi, je me demande, hein, s'il suffit de la politique de test que vous appliquez dans tel ou tel pays, vous n'avez peut-être pas une situation qui est si différente en France et en Espagne. Donc voilà, les comportements des Français et des Espagnols, à mon avis, sont assez similaires. On a des situations épidémiologiques qui sont assez proches. Il se passe effectivement quelque chose en Catalogne, mais comme il se passe des choses aussi dans certaines régions françaises, je pense que c'est compliqué parce que je pense que l'Espagne va très rapidement redescendre sa courbe épidémique en Catalogne.
Parce qu'elle est en train de reconfiner.
Bah oui, elle est en train de reconfiner. Il va y avoir un portage de masques massifs. Ils vont agir. Aujourd'hui, on est très réactifs. Et donc, ça veut dire qu'on aurait des ouvertures, fermetures, frontières comme ça qui seraient sans arrêt. Je pense que dans des pays qui ont des situations épidémiologiques proches et qui ont la même stratégie de lutte contre le virus, il est peu malin de fermer la frontière.
Mais cette semaine, il y avait une commerçante à Argelès, à la frontière, côté français, hein, oui, qui disait, écoutez, Figueras, ils sont pleins de Covid, ils ont dû reconfiner, c'est à 50 km d'Argelès. Et elle disait, cette commerçante, moi, j'aimerais bien qu'ils ferment la frontière, comme un souci de se protéger de ce virus qu'elle voyait venir de l'Espagne.
Parce qu'elle imagine le virus à Argelès, il est autour d'elle et elle ne le voit pas. Il y a beaucoup de virus autour de nous en France et on ne le voit pas. C'est ce que tout le monde dit d'ailleurs. Les épidémiologistes en ce moment sont en train de sortir dans la presse pour le dire. Ils disent, le virus est là, on est obsédé par les clusters parce qu'on pense que le virus n'est que dans les clusters. Or, c'est faux. Il est transmis par une population jeune qui est tout à fait asymptomatique. Et c'est ça qui fait qu'il y a des clusters d'ailleurs qui s'allument. Donc le virus, il est partout. Et c'est nos comportements qui détermineront la suite des événements.
D'ailleurs, Joël Wiesmann, alors vous qui êtes médecin généraliste, que pensez-vous de... Parce que tout à l'heure, Bruno Mégarban disait, il y a beaucoup, au fond, l'essentiel des contaminations se font dans ces réunions familiales. Est-ce qu'il faudrait... C'est en Belgique, hein, ils ont interdit les réunions privées à plus de 15 personnes. On va dire les choses. Est-ce qu'il est sage aujourd'hui d'aller ce week-end si on a un mariage où il y a 100, 150 personnes?
Alors voilà, je crois que le mot interdire, les gens n'en peuvent plus. c'est, enfin, les, la population, c'est plutôt expliquer, c'est la pédagogie, c'est prendre du temps pour dire qu'en effet, on lutte contre ces chaînes de contamination et que les réunions familiales, où il y a beaucoup de gens, oui, on se contamine. Alors, je voudrais juste revenir sur la question des tests, puisque vous parlez des tests au niveau des aéroports. Mais nous, on a des problèmes en ville. On a des gros problèmes en ville. Il n'y a pas beaucoup de centres qui font les tests. Ce n'était pas exactement la question, mais ça me paraît très important de le dire. Et donc, quand un patient vient avec des symptômes supposés Covid, c'est toujours supposé, aujourd'hui, j'ai des patients qui mettent 2 semaines pour avoir un rendez-vous, pour avoir un test, 5 à 6 jours pour avoir un résultat, ce qui veut dire qu'il faut les arrêter pendant 3 semaines. Et d'abord, au niveau économique, ça me paraît très compliqué. Même pour eux, c'est très compliqué. Et j'arrête pas de trouver des centres où on peut les prendre plus rapidement, mais ils sont pris d'assaut, puisque tout le monde a les adresses. C'est vraiment très compliqué en ville. Il faut remettre des centres pour les tests. Il faut en remettre beaucoup, partout.
Là, c'est une lacune majeure, Anne-Claude Crémieux.
Je crois que si on cherche des explications, quand même, au fait qu'il y a une augmentation de la circulation, c'est-à-dire que le R0 est supérieur à 1, c'est-à-dire que progressivement, ça augmente, on peut trouver 2 explications. La première, c'est qu'effectivement, notre contrôle des chaînes de contamination est imparfait. Et il y a une raison très claire que vous venez tout à fait bien d'expliquer, c'est que si on veut contrôler une chaîne de contamination, il faut pouvoir identifier les personnes symptomatiques dans les 24 heures après l'apparition d'un symptôme, et il faut pouvoir identifier l'ensemble des contacts dans les 3 jours. Donc on voit bien qu'il y a, je dirais, vraiment un enjeu de réactivité, c'est pas moi qui le dis, ce sont différentes études, et qu'effectivement ça suppose de pouvoir avoir accès à des tests très facilement avec des résultats rendus immédiatement. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'idée...
Vous parliez de 3 semaines.
Hein. Non, mais c'est
en incompatible. En 3 semaines, on peut donc contaminer alors qu'on veut en mettre bonne foi.
C'est-à-dire que c'est strictement inutile. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas tester les gens.
Bah voilà, c'est incompatible. Quel est l'intérêt de faire un test?
Très clairement, c'est incompatible avec le contrôle de l'épidémie. La deuxième raison, on en a parlé, mais encore une fois, ce n'est pas la seule. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, il y a un seuil de mesure barrière qui apparaît aujourd'hui, je dirais, incompressible pour arriver à continuer à avoir une circulation du virus lente.
D'où l'intérêt. C'est-à-dire
qu'au fond, à un moment donné, l'espoir a été de se dire on va revenir à la vie d'avant.
Oui. Bon, ben ça ne s'est pas réalisé. On avait eu un mois de juin assez idyllique.
Voilà. Hein? On s'est dit
l'été arrive, tout va bien.
Et au fond, ce qu'on a tous découvert, pas seulement la France, l'Espagne, l'Allemagne, etc., c'est que non, il y a très clairement un seuil de mesures qui nous permettent, qu'il ne faut pas dépasser, qui nous permettent de continuer à faire pression sur ce virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ralentir sa diffusion. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, la mesure de masque obligatoire dans les lieux clos, parce que c'est une des mesures majeures pour freiner la diffusion du virus, et c'est comme ça qu'on va gagner du temps. Voilà.
Donc de ce point de vue, ce regain-là d'attention portée sur le masque, et on voit les Français portent davantage le masque. C'est une bonne nouvelle, ça nous annonce un mois d'août, peut-être, on peut espérer un peu plus bas.
C'est tout l'espoir. C'est clairement tout l'espoir.
Alors, Bruno Mégarban.
Oui, j'allais faire 2 commentaires. Le premier, puisque Anne-Claude parlait des masques. Donc, effectivement, on voit que les masques sont mieux mis, plus mis. Par contre, il y a un relâchement sur les autres mesures barrières qui a été noté et rapporté. Le lavage des mains, la distanciation sociale.
On n'en parle plus du lavage des mains.
Voilà, c'est des choses importantes et je crois que c'est même plus important quasiment que le masque. C'est d'abord ça, plus ou moins le masque.
Bon, voilà. on va pas hiérarchiser. Ça fait partie des mystères du Covid. Okay.
Bon. En tout cas, à mon avis, un masque sans se laver les mains n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je dirais, la distanciation sociale, c'est celle qui permet en tout cas de freiner en premier les contaminations, notamment dans l'espace libre, en l'air libre. Le deuxième point, c'était concerner les tests. Je pense effectivement que ça va être le défi important, puisqu'en fait, avec l'arrivée de l'automne, on va voir monter les syndromes grippaux de toute origine, les virus de toute nature,
donc
la grippe, la gastroentérite, la pharyngite virale. Et donc, en fait, d'un point de vue syndromique, d'un point de vue diagnostique, les personnes vont présenter à peu près le même tableau clinique et il faudra savoir parmi eux lesquels ont un Covid. Et donc, il va y avoir un afflux encore plus important sur les tests, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et c'est le défi, à mon avis, qui attend avant les autres avant le fameux afflux attendu octobre-novembre.
On a tous l'impression que plutôt que de... On attend tous le vaccin, mais en fait, avant, il faut attendre le test efficace. Hein,
d'ailleurs,
c'est ça, hein, la
pour
première
l'illustrer,
étape.
C'est quand même assez impressionnant. Il y a deux initiatives avec une puissance financière considérable menée par les Américains. L'initiative pour développer un vaccin et la deuxième initiative qui vient d'être annoncée, c'est l'initiative pour développer des tests rapides. Leur idée, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 millions d'Américains dépistés par jour, c'est-à-dire 2% de la population. Tout le monde a compris que l'enjeu était là. Et effectivement, il y aura parmi ces tests, des tests qu'on attend beaucoup, qui sont des tests rapides qui non seulement nous permettront d'identifier le coronavirus, mais en plus auront la capacité d'identifier les autres virus respiratoires, ce qui fait que devant un patient qui présente un syndrome grippal, on pourra savoir, s'agit-il du coronavirus, s'agit-il d'une autre infection virale.
Alors, comment contenir le coronavirus en période estivale quand les déplacements se multiplient? Face aux signaux de reprise de l'épidémie en France, mais aussi en Europe, un conseil de défense dédié au Covid s'est tenu ce matin. Priorité a été donnée à la surveillance des frontières. Sujet de Laura Rado et Christophe Roquet.
Pour ce vendredi de départ en vacances, Jean Castex a pris lui aussi la direction de l'aéroport de Roissy. Le Premier ministre venu rassurer les Français en renforçant les contrôles sanitaires à l'arrivée.
Ce dispositif est assez simple. Il a conduit à identifier une quinzaine, 16 très précisément, de pays dans le monde où la circulation virale est particulièrement forte. Pour l'ensemble de ces pays, il a été décidé que les voyageurs seront tenus de disposer d'un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus pour embarquer dans les avions correspondants.
Parmi ces pays en zone rouge, les États-Unis, l'Algérie ou encore le Brésil. Un dépistage obligatoire s'appliquera dans tous les aéroports français. Face aux signes de reprise de l'épidémie, l'exécutif veut faire taire les critiques sur la trop grande porosité des frontières.
Non, nous ne faisons pas le nécessaire. Moi-même, pour avoir repris l'avion la semaine dernière et cette semaine, je peux vous dire qu'il y a des insuffisances graves.
Des insuffisances pointées du doigt dans les aéroports, mais aussi sur les routes. Au point de passage entre la France et l'Espagne, les voitures ralentissent, mais ne s'arrêtent plus. Depuis fin juin, la frontière est de nouveau ouverte, sans aucun contrôle. Côté français, les habitants réclament une plus grande fermeté.
La frontière, moi je pense qu'il faudrait la fermer.
Pourquoi ?
Parce que justement, pour éviter que le virus vienne nous toucher.
C'est une mesure transitoire qui est pour la santé de tout le monde, je pense que ce serait pas mal.
Pas de fermeture de frontière annoncée, mais le gouvernement recommande de ne plus se rendre en Catalogne. Car la propagation du virus là-bas s'accélère. En 3 semaines, les contagions ont triplé. Les Catalans sont donc priés de rester chez eux. À Barcelone, pour éviter les plages bondées, la mairie a réduit le nombre de personnes autorisées sur le sable, moins 15% depuis mardi. Des mesures plus strictes, plus ciblées, recommandées par la branche Europe de l'OMS.
La récente résurgence de cas de Covid-19 dans certains pays après l'assouplissement des mesures de distanciation est certainement une cause d'inquiétude.
À une autre frontière de la France, en Belgique, l'augmentation du nombre de cas frôle les 90% par rapport à la semaine dernière. L'évolution est prise très au sérieux par les autorités.
À partir de ce samedi 25 juillet, les masques seront obligatoires également dans les marchés, les brocantes, les fêtes foraines, les rues commerçantes et tout endroit à forte fréquentation.
En France également, les craintes d'un été gâché par l'épidémie ressurgissent. Plus de 1000 cas positifs enregistrés hier. C'est 26% de plus en une semaine. Plus alarmant encore, la propagation du virus dans le territoire. Les derniers foyers de contagion sont apparus dans le Finistère ou en Gironde.
Il y a des zones où, qui avaient été très peu touchées par le Covid et qui arrivent là, en particulier dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest, c'était des zones qui avaient été très peu touchées. Donc ça veut dire que ça a redémarré. Et on est en effet sur une ligne de crête un peu instable.
Mais vous dites que les chiffres ne sont pas bons, ils sont inquiétants.
Les chiffres sont inquiétants.
Les autorités appellent sans relâche à la vigilance et au dépistage. Les campagnes se multiplient. parmi les groupes les plus touchés ces derniers jours, les personnes âgées de 20 à 40 ans, souvent asymptomatiques. La population la plus susceptible de diffuser le virus.
Alors, question téléspectateur, la période de confinement n'a-t-elle pas été trop courte et n'aurait-il pas mieux valu fermer les frontières jusqu'à la fin de l'été, Anne-Claude Crémieux ?
Non, alors je pense qu'on maintenant avec le recul, et on le voit par rapport à d'autres pays qui ont confiné de façon insuffisante en termes de durée, je pense par exemple à certains États aux États-Unis, eh bien on voit qu'effectivement on a eu une bonne durée de confinement, c'est entre 7 et 8 semaines, qui a permis vraiment de faire chuter le nombre de nouvelles contaminations. D'autres pays, effectivement, comme aux États-Unis, on le voit bien, ils ont confiné tard et ils ont levé le confinement tôt et on voit bien qu'ils sont en train de le payer par la nécessité de confiner encore une fois, c'est-à-dire que finalement ces pays-là, au lieu d'avoir une durée de confinement plus courte que la nôtre, ils vont avoir une durée de confinement plus longue. Donc là-dessus, je pense que une bonne partie des pays européens ont bien jugé de la durée du confinement.
On parlait juste avant le sujet, Martin Blachier, de la nécessité de tester. Est-ce que finalement, ce n'est pas la technique des Asiatiques, des Chinois là ? Finalement, le confinement, ils avaient raison. Et là encore, sur la volonté de tester massivement, là aussi, ils ont raison.
Je crois qu'on a énormément sous-estimé quelque chose chez les Asiatiques, c'est qu'ils ont la culture du masque. Et je pense que ça, c'est toute la différence. Et moi, j'ai récemment parlé avec des gens au Vietnam, par exemple. Ils m'ont dit, non mais nous, on porte tout le temps des masques. À cause de la chaleur, à cause de la pollution, il y a une culture du masque chez les Asiatiques. Et je pense que c'est ça qui les a protégés. Moi, je crois énormément aujourd'hui à l'efficacité de la mesure du masque, plus que toutes les autres mesures. Et je pense que le masque bien porté a la capacité d'éviter une seconde vague à lui seul, quasiment, avec les rassemblements familiaux, qui, je pense, sont un sujet à part. Je pense que les tests, c'est très limité l'impact. Pourquoi ? 30% de faux négatifs. C'est-à-dire qu'il y a 30% des gens testent négatifs, et je ne parle même pas des gens qui sont asymptomatiques, parce que c'est un taux de faux négatifs qui est moyen pour l'ensemble des patients. Mais comme aujourd'hui, c'est essentiellement des patients qui sont jeunes et qui n'ont pas de symptômes, je pense que le taux de faux négatifs est considérable. Moi, j'ai des exemples dans mon entourage.
Des gens qui contaminent, mais quand ils font un test, tout va bien.
Exactement. Et il y a même plein de médecins qui refusent de faire le test parce qu'ils disent qu'il y a trop de faux négatifs. Et de toute façon, même si le test est négatif, je ne saurais pas quoi vous dire. Je pense que l'efficacité du testing aujourd'hui est extrêmement faible. Et je pense que ce qui a marché dans les pays asiatiques, c'est la culture du masque. Voilà. Moi, c'est ma théorie sur le contrôle par les Asiatiques de l'épidémie.
Alors, quand en Belgique, ils vont rendre le port du masque obligatoire dans tout endroit à forte fréquentation, marché, brocante, rue commerçante, hôtel, restaurant, café, vous dites bravo, là.
Bien sûr, mais c'est le moyen de contrôler l'épidémie. Regardez les Américains, vous dites, ils ont fait deux grandes initiatives. Moi, je dis, la plus grande initiative D'accord. qu'ils ont faite, ça leur a rien coûté, c'est que Trump dise qu'il faut porter des masques. Et je pense que c'est le début du changement de phase pour les États-Unis. C'est là où ils vont commencer à rentrer dans la bonne phase et arrêter ce délire d'emballement de l'épidémie sans fin. Ils vont réussir à contrôler leur foyer parce qu'enfin, ils ont compris que la mesure qu'il faut qu'ils appliquent, c'est le port du masque largement et totalement pour la totalité des États américains.
Oui, Anne-Claude Crémieux ?
Non, alors, je ne partage pas cette opinion probablement parce que je suis plus médecin clinicienne. Ce qu'on a vu lors de la première vague, ce sont vraiment des clusters dans des endroits abritant des personnes fragiles, et notamment je pense aux EHPAD. Et je pense aux hôpitaux, je pense aux lieux où effectivement on a des gens qui sont fragiles. Et une des raisons pour lesquelles on a laissé filer la transmission dans ces lieux, c'est que nous étions dans l'incapacité totale d'identifier les personnes porteuses du virus et celles qui ne le portaient pas. Et ça a fait des dégâts considérables. Donc moi, je crois beaucoup à la nécessité de tester, justement parce que cette infection donne des formes peu symptomatiques et asymptomatiques, parce que identifier les personnes infectées, ça fait partie du contrôle de toute épidémie. Nous l'avons aussi appris avec l'infection à VIH, une personne qui se connaît infectée, eh bien, transmet moins parce qu'elle modifie ses comportements.
Bruno Mégarban, l'OMS en Europe s'inquiète de la résurgence des cas de Covid dans certains pays et nous invite, nous les Européens, à réintroduire des mesures plus strictes. Il ne faut pas se leurrer, les cas d'aujourd'hui, ce sont les entrées en réanimation de demain.
Alors, on va dire, les contaminations d'aujourd'hui sont les entrées possibles en réanimation dans une quinzaine de jours, une quinzaine et une vingtaine de jours. Alors, bien sûr, pour la majorité des cas, il faut quand même être prudent. La forme est soit asymptomatique, soit très peu symptomatique. Seule une minorité de personnes vont faire des formes graves de pneumonie qui vont possiblement les conduire en réanimation. Donc, c'est une affaire statistique. Plus il y a de contaminés, plus la probabilité de personnes allant en réanimation va augmenter. Alors, il faut modérer ça par plusieurs facteurs. Le premier, effectivement, c'est, comme on le disait, actuellement, c'est beaucoup de jeunes qui se contaminent. Donc, le risque d'aller en réanimation est plus faible. Deuxième point, les personnes les plus à risque, puisque maintenant on connaît clairement les facteurs de risque, eh bien, probablement se protègent davantage. Et donc, effectivement, le risque, là aussi, d'aller en réanimation est plus faible. On va dire, nous, en réanimation, on espère, bien sûr, et on s'attend très peu probablement d'avoir le même afflux massif de personnes en insuffisance respiratoire aiguë avec des pneumonies gravissimes en réanimation que ce qu'on en a connu lors du premier pic. Enfin, on l'espère. Maintenant, évidemment, le risque existe toujours, surtout s'il y a un relâchement des mesures barrières et du port du masque. Voilà. Je crois qu'il y a toutes ces mesures-là doivent coexister. Je ne suis pas certain qu'on dise tout est lié au masque, tout est lié au dépistage, tout est lié aux mesures barrières. On a besoin de ces trois piliers pour pouvoir prévenir, car aujourd'hui, le seul traitement de l'infection, c'est la prévention.
Oula, Joël Wiesmann, Bruno Mégarbat vient de décrire les effets de ce Covid. Très souvent, c'est anodin, surtout si on est jeune, mais parfois, ça peut être fatal. C'est ce qu'il a de pervers, ce virus. C'est qu'il est anodin pour les autres, fatal pour les autres. Et il peut être anodin, j'imagine, pour certaines personnes au début et se révéler très toxique par la suite. Comment annonce-t-on à quelqu'un qu'il a le Covid? Est-ce que vous lui dites que ce n'est pas grave ou est-ce que vous...
Alors, il faut bien
et comment il réagit? Attention, dans deux semaines, je peux être intubé, quoi.
Alors, en pré-confinement, puisque moi, j'avais tiré la sonnette d'alarme en février, quand même. Il y en avait, je suis dans le 12e. J'avais beaucoup de patients supposés, c'est toujours supposé, supposés Covid, donc au syndicat, qui a fait remonter au ministère. Il n'y avait pas de masque, donc ils ne disaient rien. Et donc, je disais aux gens, confinez-vous. Je les arrêtais, mais ils ne comprenaient pas. Je me suis battue pendant 4 semaines jusqu'au confinement. À ce moment-là, c'était supposé. Donc, c'est très compliqué Alors, il faut bien se dire qu'on n'a pas la culture du masque, on n'a pas la culture de cette distance physique. Il faut laisser le temps à une population d'intégrer tout ça. C'est très important. Il faut leur expliquer. Il faut passer du temps à expliquer aux patients. Ils ne comprennent pas. J'ai des patients qui me disent, moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rater mon travail pendant 3 semaines. Je retourne travailler.
Quand on ordonne à quelqu'un de rester en quatorzaine, il est contrôlé ou bien on lui fait confiance?
Non. Alors, il n'est pas contrôlé, mais au début, on me dit toujours non. On me dit toujours non.
J'ai du boulot, j'ai des vacances.
Tout à fait. J'ai des patients en début de semaine qui devaient partir en Bretagne, un couple de patients en début de semaine. Donc, on était le 20, ils avaient un rendez-vous pour des tests le 6 août. Réponse, je me suis dit, quel est l'intérêt? Franchement, mais quel est l'intérêt? Donc, il m'a dit, bon, bah, c'est pas grave, on va quand même partir. Je vais expliquer que non. Qu'il fallait qu'il reste confiné chez eux, c'était très très important.
Mais comment le saviez-vous qu'il avait le Covid parce qu'il avait...
Ah, je ne sais pas.
Mais il avait des symptômes?
Il avait des symptômes. Alors lui, sa femme et sa fille. En fait, les trois.
Typiques, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'il avait? Il n'y a pas de symptômes typiques. Il toussait beaucoup. Alors là, il n'y avait pas, mais il toussait beaucoup, la fatigue. Mais dès qu'on a une présomption, si on ne peut pas avoir le test, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix. Donc ils ont finalement, j'ai eu un SMS, ils ont annulé, je suis arrivée. Ils ont annulé leurs vacances en Bretagne et ils sont partis se confiner à la campagne. Mais vous voyez la difficulté...
Vous agissez en aveugle. Hein.
Mais complètement. Mais on n'a pas le choix. Je crains le septembre-octobre où, en effet, on a toutes les gastro-entérites, toutes les pharyngites. Comment on va faire? Si on n'a pas des tests rapides, comment on va faire? Il faut passer beaucoup de temps. En tous les cas, tant que je n'ai pas de test, il faut qu'ils soient confinés.
Je crois que c'est une très très belle illustration de l'importance des tests. Une partie importante des clusters sont des clusters intrafamiliaux. Effectivement, comment voulez-vous dire à quelqu'un de se confiner, de s'isoler du reste de sa famille s'il ne sait pas s'il porte le virus? S'il a des symptômes, il va toujours, on est tous comme ça, il va toujours dire bah non, c'est pas ça. Et donc, effectivement, c'est très difficile de combattre une épidémie les yeux aveugles avec un bandeau sur la tête, comme le disait le directeur de l'OMS.
Est-ce qu'on en sait plus sur le profil? Parce que ce qui se passe aussi, c'est que souvent les jeunes disent de toute façon, moi, je vais pas me... Je suis intouchable. Est-ce qu'on en sait plus sur le profil, Martin Blachier, des gens qui font une forme grave du Covid? Est-ce que c'est toujours pareil? Ce sont surtout les hommes. Et plus on monte en âge, plus le risque est grand.
Il y a une relation quasiment linéaire entre l'âge et les formes sévères. Et chez les jeunes,
la, plus ne bouge pas, ça.
La plupart du temps, ça a été vu dans une énorme base anglaise. Et je crois que ça a été confirmé aussi dans des bases françaises. Il y a une relation extrêmement tenue entre le risque de faire une forme sévère et l'âge. C'est de loin la variable qui détermine le plus. Et après, il y a quelques autres pathologies chroniques qui exposent un sur-risque, mais qui sont encore inférieurs au rapport qu'il y a entre l'âge et le risque de faire
c'est
une forme
fréquent,
sévère.
C'est fréquent ou c'est vraiment une exception que ce virus soit à ce point corrélé, j'allais dire au sexe quand même, parce que je crois que ce sont essentiellement des hommes, vous me le direz.
Oui, il y a un effet sexe, effectivement.
Et à l'âge. Et on ne peut pas l'exploiter,
non,
ça
mais, non, mais la grippe, la recommandation vaccinale pour la grippe, c'est chez les plus 65 ans. La recommandation dans la plupart des pays, à part la France, c'est une exception française, de la vaccination contre le pneumocoque, c'est les gens qui ont plus de 60 ou plus de 65 ans. Donc on sait que les gens qui ont plus de 65 ans sont vulnérables aux infections respiratoires. Et toutes les mesures, les campagnes de santé publique de vaccination ont été très souvent basées sur ce critère d'âge.
Donc, on n'est pas prêt de revoir, non, parce que j'avais parlé un peu de foot, ce soir il y a PSG Saint-Etienne, on n'est pas prêt de revoir du monde dans les stades. Hein, tant que...
Moi je dirais le but en fait de tout ce qu'on est en train d'expliquer, les mesures barrières, le port du masque, c'est justement de pouvoir vivre le plus normalement possible, dans la mesure du possible. Effectivement, pourquoi pas revoir un match de foot avec des personnes dans le stade, distantes d'une certaine distance, et masquées. Pourquoi pas ? Lorsque, même en plein air, ce n'est pas possible de garder un mètre de distance, lorsque on va rester de façon assez prolongée à côté d'une autre personne, il vaut mieux mettre le masque.
Anne-Claude Crémieux, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Parce que c'est parti pour très longtemps, c'est ça le point.
Oui, c'est parti pour très longtemps. Tant qu'on n'aura pas le vaccin, quoi.
Exactement. Et que ce vaccin soit efficace.
Pardon.
Excusez-moi. Oui, j'en prie.
L'effet âge, effectivement, est tout à fait spectaculaire, mais effectivement, par rapport à la grippe, ce qui nous a surpris, ça a surpris tout le monde, mais on le savait de la Chine, c'est le fait que les formes très graves se voient à 65 ans. Alors qu'effectivement, pour ce qui est de la grippe, il y a, je dirais, c'est plutôt 15 ans plus tard. Et donc ça a beaucoup frappé, je dirais, tout le monde. C'est-à-dire qu'à 65 ans, qui est aujourd'hui considéré comme pas si vieux que ça, pour la médecine, eh bien, tout à coup, on voyait des gens qui étaient extrêmement vulnérables.
Au Covid,
voilà. Deuxième chose, effectivement, on parle de protection. Je crois qu'effectivement, un des premiers conseils qu'on peut donner aux gens, c'est d'éviter les lieux clos. Une étude a montré que la transmission était 20 fois plus importante en lieu clos qu'en lieu ouvert. Ça, c'est vraiment un message qui est important et je pense qu'il est passé quand on a dit les masques sont obligatoires en lieu clos.
Donc la Belgique fait un peu d'excès de zèle quand elle dit même...
Après, deuxième risque, c'est en fait un contact étroit et proche avec quelqu'un. Alors ça peut être n'importe où, ça peut être dans un match de foot, et surtout si on parle fort et surtout si on crie. Ça, on sait que si c'est un contact avec une certaine durée proche et surtout si on parle et surtout si on crie, il y a un vrai risque. Et c'est pour ça, à mon sens, que certains pays disent... pas de rassemblement massif en tout cas, s'il y a rassemblement, il faut une distance sociale et les masques.
Moi, je voudrais juste dire un mot quand même sur... Vous le citiez à la dernière émission, c'est ce cas. Il y a deux cas qui sont très intéressants quand même, ces coiffeurs qui ont été contaminés et qui n'ont contaminé aucun de leurs clients parce qu'ils étaient masqués. Il n'y a pas longtemps, j'étais...
Et le personnel de santé également.
Le personnel de santé et les pompiers aussi. Les pompiers, ils ont porté des masques pendant tout le temps et ils n'ont quasiment eu aucun cas. Donc je pense que le masque est vraiment extrêmement efficace. Et je pense que si on est strict sur le masque, on va pouvoir avoir une vie assez normale. Et je pense vraiment que c'est la mesure, le masque, qu'il faut retenir.
Joël Wiesmann.
Juste un petit mot par rapport à l'âge et pour dire que cette affaire, elle est collective. Parce que du coup, ce qu'on a fait, une scission. Et je vois dans les patients, les plus de 65 ans, ça les a déprimés complètement. Parce qu'ils disent, si je l'attrape, c'est foutu. Enfin, vraiment. Et je trouve qu'il y a une scission, là, dans la population qui est bénéfique pour personne. Il faut vraiment se dire qu'on est tous dans le même bateau et nous combattons tous le même virus. Et en effet, la distance, enfin, tout ce qu'on a déjà dit, le masque notamment, pour les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, les beaucoup plus vieux, pour tout le monde. Pour tout le monde, ça permet... à chacun de protéger l'autre, puisque c'est le... Ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, l'intérêt du masque chirurgical. Hein, quand je mets un masque chirurgical, je protège les autres.
Parce que beaucoup disent, moi je suis jeune, à quoi bon en mettre ?
Exactement.
Puisque je ne risque rien.
Tout à fait.
Sauf qu'il oublie que lui peut être contaminant.
Mais tout à fait, tout à fait. Et ça me paraît juste une petite chose
sur le masque, hein, je vais être un tout petit peu provocateur sur les tests, mais je pense que les tests parfois peuvent faire plus de mal que de bien, puisque j'entends aussi des gens qui disent, moi je me suis fait tester, je suis négatif, donc je peux aller à la fête de famille. Ouais. Mais je me sentais quand même pas bien. Mais j'ai fait un test, j'étais négatif. On a 40% de ceux qui sont faux négatifs.
Alors, comment lutter contre le relâchement en vacances? Beaucoup de Français sont partis en congé en espérant oublier les mois de confinement et peut-être ont pu faire preuve de relâchement. Le Covid, lui, visiblement, n'a pas pris de vacances. Les messages de prévention peuvent-ils conduire à plus de prudence? Sujet de Antoine Magnan, Émilien David et Maxime Liogier.
Après 2 mois de confinement, les Français rêvaient de vacances, de soleil et surtout d'oublier le virus. Dans les stations balnéaires, le début du mois de juillet, celui de l'insouciance, quasiment pas de masques, peu de gestes barrières, l'épidémie semble déjà loin.
On va essayer d'oublier un petit peu le Covid pendant la période de vacances.
Plus les jours avancent et plus les touristes affluent. Sur les plages, comme ici sur la Côte d'Azur, la distanciation devient impossible.
On se resserre un peu plus, quoi.
Vous n'osez pas leur dire de rester éloignés?
Non, parce que... il y en a trop et puis finalement, tout le monde a le droit quand même à son emplacement.
Et quand vient la nuit, les barrières tombent définitivement. Fêtes dans les bars de Cannes, rues piétonnes bondées à Lacanau qui laissent les professionnels impuissants.
Voilà, on va se lâcher pendant les 2 mois d'été. Donc c'est vrai que nous, on est tout le temps obligés de faire attention.
Il y a 13 jours, ce concert géant donné devant des milliers de personnes à Nice fait polémique et marque le début d'une prise de conscience. Depuis, les règles se sont renforcées, en particulier sur le port du masque, et le gouvernement continue de sensibiliser avec une série de clips sur le thème des vacances.
Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres.
Et un énième rappel, même sur la plage, les gestes barrières ne doivent jamais cesser.
Ça te dit qu'on aille se baigner ?
Ouais, ok !
Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières.
Depuis quelques jours, le nombre de cas augmente en France, notamment dans certaines régions touristiques. La Corse n'a pour l'instant pas observé de redémarrage de l'épidémie, mais sur cette plage près d'Ajaccio, les touristes restent méfiants.
Il est là, dans le sac, toujours prêt. Voilà.
Vous faites attention même pendant les vacances ?
Oui, surtout pendant les vacances, parce que tout le monde bouge, donc on fait attention.
Je pense qu'on est tous concernés, malgré tout. Et puis je pense que c'est beaucoup ressassé à la TV, donc on l'oublie pas.
Ouais, forcément, on y pense. Là, à la plage, pas trop. Mais quand on va dans des espaces restreints, forcément, on met le masque, on pense aux distanciations un peu, on se désinfecte les mains. On essaie de faire avec.
Jean Canarelli est le président de l'Ordre des médecins de Corse du Sud. Ses comportements précautionneux, il les observe aussi depuis peu.
Tout le monde s'est relâché après le déconfinement et on voit qu'aujourd'hui, depuis plusieurs jours, désormais les gens ont repris conscience parce qu'ils avaient un petit peu oublié que l'épidémie peut repartir. Et on voit bien que les masques sont portés à bon escient, dans les lieux fermés sont portés, dans les endroits à risque ils sont portés. Donc on retrouve des réflexes qui nous permettront, en tout cas je l'espère, de contenir et de maintenir cette épidémie.
Des réflexes retrouvés dans les lieux publics, mais ce qui inquiète les autorités, ce sont les réunions familiales. En Haute-Savoie, 13 personnes ayant assisté au même mariage viennent d'être testées positives. Une problématique qui dépasse les frontières. Aux îles Canaries, le gouvernement local a décidé de diffuser le clip choc d'un anniversaire avec ce message. Une simple réunion de famille peut vous offrir en cadeau 40 jours dans le coma ou même la mort. Preuve qu'il faut désormais réapprendre à vivre avec les gestes barrières, y compris dans le cadre strictement privé.
Justement, question téléspectateur, les clusters n'apparaissent-ils pas essentiellement lors des regroupements familiaux ? Anne-Claude Crémieux, on va être très direct, ce week-end, il va y avoir des milliers de mariages partout en France. Est-ce que vous iriez si vous étiez invité à un mariage ?
Un mariage avec beaucoup de gens, non, je n'irais pas.
Je
ne le conseillerais pas. En plus, je ne conseillerais pas. Très honnêtement, plus il y a de gens, il faut comprendre, et plus il y a de risques qu'il y ait une personne infectée parmi ces personnes. Donc aujourd'hui, si on doit se marier, je dirais qu'il faut quand même limiter le nombre de personnes présentes.
Mais qu'est-ce qui est dangereux ?
Il faut,
c'est au buffet, c'est sous la tente.
Alors, c'est deux choses. Il faut conseiller aux gens de faire des buffets à l'extérieur. Encore une fois, c'est beaucoup moins risqué de le faire à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut aussi conseiller aux gens d'être raisonnables et de limiter le nombre de personnes présentes. Pourquoi ? Parce que moins on est, plus c'est facile d'observer des gestes barrières. Et encore une fois, moins il y a de risques que parmi les personnes, il y ait quelqu'un d'infecté qui infecte tous les autres. Enfin, faites des mariages, si possible, pas dans des zones rouges. Soyez raisonnables, faites-les dans les zones où le virus circule moins.
Alors c'est quoi les zones où le virus circule moins? Il y a sept départements là. On va les citer, tiens.
Non, non, mais je dis ça en plaisantant.
Il y a sept départements en seuil de vigilance orange, je sais pas quelle couleur. On peut les citer: Mayenne, Finistère, Vosges, Haut-Rhin, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise.
Mais encore une fois, le risque, c'est d'avoir plusieurs personnes qui sont infectées et qui ont des contacts proches avec un grand nombre de personnes dans un mariage, c'est ça. Donc, extérieur, si possible, garder des distances sociales et être limité sur le nombre de personnes, parce que c'est évident que quand on a des centaines de personnes, c'est impossible de garder des distances sociales.
Bruno Mégarban, c'est terrible parce que l'été, c'est le moment où on retrouve sa famille, ses grands-parents, les grands-parents retrouvent les petits-enfants.
Alors,
à la fin, il y a à quoi bon vivre.
On va dire, pour animer un peu le débat, pour animer un tout petit peu le débat, je dirais, moi, j'irai au mariage.
Ah,
alors,
bon.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Anne-Claude Crémieux. Néanmoins, c'est vrai que je ferai attention. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, le virus, malgré tout, circule à un niveau relativement bas. Donc, on va dire, en moyenne, c'est 10 cas pour 100 000 personnes, 10 nouveaux cas pour 100 000 personnes. Donc,
plus
on va
66%
dire,
en trois semaines.
Oui, mais on va dire, c'est-à-dire, autrement dit, il faut que vous fassiez un mariage avec 10 000 personnes pour avoir un cas. Donc, ça reste relativement bas.
Pardon, mais à Annecy, 12 contaminations dans un mariage.
Oui, tout à fait,
et
bien
ensuite,
sûr.
Des gens qui sont rentrés
possible.
Chez eux.
Mais on va dire, on va pas. Il est possible, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Anne-Claude Crémieux. Néanmoins, je dirais, en prenant un certain nombre de précautions, je pense que la vie normale peut encore se dérouler. Donc, moi, j'irai au mariage tranquillement, mais en mettant mon masque, effectivement.
Joël Wiesmann, est-ce que les gens acceptent mieux le masque et est-ce que la bise, ou est-ce qu'il y a encore des patients qui vous serrent la main?
Non.
Non, c'est fini, ça.
Non, plus du tout. Depuis février, hein. Il n'y a plus du tout. Il y a certains patients que je connaissais très bien qui je faisais la bise, donc plus du tout. Mais ils ont tous le masque. J'ai un visiophone, donc je leur demande avant de rentrer. Ceux qui ne l'ont pas, je fournis le masque.
Et il est mieux accepté. Il a toujours été bien accepté.
Non.
Ou ça a été un...
Non. Entre le masque qui est mis là, le masque qui est mis là, quand ils me parlent, ils le retirent. Je passe du temps à leur expliquer. Donc ils me disent qu'ils en ont marre, qu'ils étouffent, qu'ils n'en veulent plus que dans quelques temps. Donc tranquillement, je leur dis qu'on est parti pour plusieurs mois et que c'est très important. Et on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, beaucoup l'acceptent.
Donc il y a des progrès.
Ah oui, tout à fait.
Et le fait qu'on en parle plus, là, je sais pas si on peut pas encore parler de deuxième vague, d'ailleurs, même si la ministre de la Santé luxembourgeoise a parlé d'une deuxième vague, mais ce regain là de contamination fait que le masque est davantage porté ces derniers jours.
Alors, je pense que le regain, je parle sous votre contrôle, il était prévu quand même. En post-confinement, forcément, on avait une circulation qui était très faible. Je dis qu'en post-confinement, il fallait le masque dans les lieux clos. A priori, il n'y en avait peut-être pas assez, donc c'est pour ça. En tous les cas, en effet, plus on en parle et plus ça permet psychologiquement à la population de comprendre l'intérêt du masque, des gestes barrières, que beaucoup, enfin un certain nombre en tous les cas, n'ont pas compris ou pensent qu'on en fait trop.
Oui.
Je peux juste réagir tout à l'heure sur ce qui a été dit sur les mariages et le taux d'incidence. Faut bien comprendre que ce taux d'incidence, il est minimum et il est archi faux. C'est-à-dire le taux d'incidence qu'on lit partout, c'est un taux d'incidence, c'est les cas qu'on diagnostique, d'accord, donc les gens qui vont se faire tester et qui ont un diagnostic positif, sur la totalité de la population du périmètre. Mais ça dépend du nombre du test que vous faites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne testez pas tout le monde...
Il y a des tas de Covidés qui s'ignorent.
Exactement. Donc si vous voulez avoir un vrai taux d'incidence, vous testez la totalité des gens du territoire et vous divisez par le nombre de gens qui sont dans le territoire. Là, vous avez un vrai taux d'incidence. Là, on nous parle de taux d'incidence, mais ce n'est pas des taux d'incidence. C'est le nombre de cas sur la totalité de la population du territoire. Donc en fait, le taux d'incidence, on ne le connaît pas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs du virus qui ne se font pas tester. C'est pour ça que les mariages, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par le professeur Crémieux, c'est pour ça que les mariages, c'est dangereux, parce qu'il y a des jeunes qui viennent, la probabilité qu'il y ait un jeune qui soit infecté, aujourd'hui, elle est plutôt élevée. Hein, elle n'est pas si basse que ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est effectivement des choses qui sont dangereuses. Moi, je pense qu'il y a deux mesures qui sont très importantes. Ce n'est pas la fermeture des frontières, ce n'est pas des choses qu'on entend, c'est le masque. Et c'est effectivement ces grandes fêtes familiales qui sont, à mon avis, le deuxième facteur de vigilance.
Anne-Claude Crémieux, les jeunes, ils sont contaminés, mais ils ne portent pas le masque, ils ne savent même pas qu'ils sont contaminés, ils vont faire une rentrée scolaire. En fait, est-ce qu'il n'est pas là le maillon faible, d'ailleurs, cette jeunesse qui a l'insouciance, et c'est son privilège, de la jeunesse ?
Absolument. En fait, c'est pas tellement nous, d'ailleurs, c'est les pouvoirs publics qui sont confrontés à une situation difficile, à un vrai dilemme, c'est-à-dire qu'il faut continuer à vivre. Il faut que les jeunes continuent à apprendre. Et en même temps, il faut garder, je dirais, une circulation du virus la plus basse possible. C'est pour ça que faire une fête avec 500 personnes, je dis... Bon, on peut aujourd'hui considérer qu'on peut vivre sans faire une fête avec 500 personnes. Par contre, que nos jeunes soient coupés du milieu scolaire, eh bien, c'est vrai que c'est un problème bien plus important. Et à ce moment-là, on est fondé, je dirais, à prendre, d'une part, un tout petit peu plus de risques, en sachant qu'on a de la chance avec cette épidémie. C'est peut-être la seule bonne nouvelle. C'est que les enfants, les jeunes... effectivement, ne font pas de forme sévère. Donc, quelque part, on est content de se dire qu'on ne les met pas en danger. Deuxièmement, on sait que les enfants inférieurs à 10 ans, ça c'est vraiment, tout est concordant là-dessus, non seulement sont peu porteurs de virus, mais en plus le transmettent peu. Donc, pour cette catégorie-là, on est relativement serein. Et enfin... au-dessus de 10 ans, on sait qu'effectivement, le virus circule un peu plus et que probablement, on a de la chance parce qu'un enfant de plus de 10 ans, il comprend ce que c'est que la distance sociale. Donc peut-être qu'à celui-là, on va imposer des mesures qu'on ne va pas imposer aux tout-petits. Donc oui, on est obligé de faire de cette rentrée, mais là, il faut faire confiance à nos enseignants qui sont remarquables et qui se sont déjà un peu exercés dans la vague, qui ont vu ce qui était faisable et ce qui n'était pas faisable. Mais c'est vrai que la vie doit continuer et l'économie doit continuer, l'enseignement doit continuer.
Même si la jeunesse est l'un des principaux vecteurs qui fait circuler le virus.
Attention, moins de 10 ans, vraiment, encore une fois, une population peut infecter et peut transmettre.
La jeunesse, je voulais dire les 20 ans. Quoi.
Les 20 ans, c'est autre chose. Voilà, les 20 ans, la distance sociale,
c'est la population
sociale,
qui bouge
exister.
Le plus, ouais. qui fait le plus de soirées, de réunions.
Qui ne sait pas qu'elle a le Covid.
Qui ne sait pas qu'il a le Covid et qui a peu de symptômes.
Et qui le transmet.
Voilà, exactement.
Alors, au niveau mondial, l'OMS estime qu'il y a 15 millions de cas de Covid-19. L'épidémie est active sur tous les continents. Elle s'accélère à certains endroits, en particulier aux États-Unis, où le président Donald Trump semble enfin avoir pris conscience de la gravité de la situation. Vous voyez ce reportage de Pierre Barbin et Nicolas Baudry-Dasson.
Il avait longtemps refusé de le porter. Mais la donne a changé. Donald Trump masque sur le visage pour la première fois il y a 2 semaines. Visite un hôpital militaire. Et aujourd'hui, le président américain en fait même la promotion.
Quand vous ne pouvez pas respecter les distances, portez un masque. Que vous aimiez le masque ou non, ils ont un impact. Ils auront un effet. Le virus chinois est vicieux. C'est une dangereuse maladie. Mais on a appris beaucoup de choses sur lui.
En baisse dans les sondages, Donald Trump opère ainsi un revirement tout en continuant de minimiser l'ampleur de l'épidémie. Les États-Unis ont enregistré 76 500 nouveaux cas de coronavirus pour la seule journée d'hier.
Voici la carte des États-Unis. C'est ce que vous voyez derrière moi. On voit bien où est le problème. Le nord-est est devenu très propre. Le pays est en très bon état, sauf si vous regardez au sud et à l'ouest.
Le président américain vient pourtant d'annuler la convention républicaine de Jacksonville. Elle devait le lancer officiellement dans la course à sa propre réélection. Au Brésil, des photos du président Bolsonaro ont provoqué un tollé. Toujours contaminé, il se promène à moto dans les rues de Brasilia. Sans masque, Jair Bolsonaro discute avec des balayeurs brésiliens.
Depuis le début de l'épidémie, 84 000 personnes sont mortes du coronavirus au Brésil.
Concernant mon état de santé, je vais mieux, Dieu merci. Deux de mes ministres ont aussi été testés positifs et ils ont immédiatement pris de la chloroquine, comme moi. Je ne la recommande à personne, mais quand je l'ai pris pour la première fois, 12 heures après, je me sentais bien mieux. Et aujourd'hui, tout va bien, Dieu merci.
Plus à l'ouest, au Pérou, le système sanitaire s'effondre. Les hôpitaux du pays sont saturés.
Du personnel de laboratoire, des gens du ménage, de la maintenance, tout le monde est malade. On n'a plus d'oxygène, plus de lits. Comment peut-on soigner la population dans ces conditions?
Devant cet hôpital, les voitures des malades deviennent des chambres de fortune. Ils reçoivent de l'oxygène dans leurs véhicules en attendant d'être soignés à l'intérieur.
Que quelqu'un vienne nous aider. Vous êtes tous témoins de la situation dans laquelle on est, c'est terrible.
Dans le monde entier, les contaminations repartent à la hausse et le masque devient la norme. À Melbourne, il est désormais obligatoire dans tous les lieux publics. La ville subit un deuxième confinement depuis deux semaines et les cas positifs continuent d'augmenter, plus 422 en 24 heures. Pour convaincre les habitants d'aller se faire tester, les autorités sont prêtes à payer.
Une prime de $300 sera versée à toute personne qui va faire un dépistage et doit être isolée en attendant ses résultats. Toute personne donc qui travaille et ne peut pas prendre de congé maladie.
Une ville à l'arrêt en Australie comme au Japon. À Tokyo, 10 millions de personnes doivent rester chez elles pour ce week-end particulier. La ville aurait dû accueillir le monde entier pour le début des Jeux Olympiques.
Le virus est un sacré problème. On doit le régler avant les prochains Jeux. Les gens ici sont anxieux. On ne pourra pas apprécier l'événement si ça se tient dans ces conditions.
Les JO devraient finalement débuter le 23 juillet 2021, si la situation sanitaire s'améliore.
Anne-Claude Crémieux, vous vouliez revenir sur cette carte des États-Unis qu'on va récupérer à l'instant, qui montre que le virus s'est propagé un peu partout. D'abord, juste un mot, aux États-Unis, on a l'impression... Alors, ça, c'est... Au moins, on a la chance en France que le virus ne soit pas politisé parce qu'il l'est aux États-Unis. Pour faire simple, le masque est de gauche et la chloroquine est de droite là-bas. J'imagine que ça ne fait pas bon ménage politique.
Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, aux États-Unis, les politiques sont responsables de la gestion des crises. Là, il n'y a pas à y revenir. La gestion d'une crise doit être, dirigée par les politiques. Par contre, la politisation de la gestion de la crise est dangereuse. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis où ça a été très vite dénoncé par l'agence de santé publique, vous savez, qui s'appelle le Center for Disease Control, qui a eu pratiquement les bras liés par les déclarations de Trump, parce qu'ils ont voulu avertir la population en disant « Attention, ce virus, dès février, ce virus va modifier notre vie aux États-Unis. » Et Trump est intervenu en disant « Vous ne parlez plus, ça n'est rien, ça n'arrivera jamais aux États-Unis. » Donc, minimisation et déni. Et ce qu'a dit de façon assez courageuse, je trouve, la directrice adjointe de cette agence de santé publique, elle a dit, j'ai vécu, ça fait 15 ans que je fais de la santé publique, ça fait 15 ans que je me bats contre les épidémies, la politisation des crises sanitaires, eh bien, c'est une mauvaise chose. Ça, c'est une première chose. Et
même
la
si
deuxième
nous, alors,
chose...
Nous, on a écouté les scientifiques, nos politiques ont écouté les scientifiques, on les a même accusés de trop les écouter.
Non, mais c'est pour ça que je faisais la distinction, c'est-à-dire que le politique, c'est celui qui doit mener la gestion. Mais là, ce n'est pas la responsabilité politique, c'est de la politisation des décisions. D'accord. Et ça, c'est différent. Là, on le voit d'ailleurs très bien, vous savez quel est le principal déterminant du fait de porter un masque aux États-Unis ?
Et si vous êtes démocrate, non ?
Eh bien, exactement. C'est la couleur politique, ce n'est pas votre âge, ce n'est pas votre lieu d'habitation, c'est votre couleur politique. Et pour finir, cette carte est très intéressante.
Alors, cette carte, on peut la revoir.
Elle est très intéressante parce qu'effectivement, elle montre bien que les États du Nord-Est qui ont effectivement suivi un peu une politique de type européenne, c'est-à-dire un confinement suffisamment durable, un port du masque, s'en sortent beaucoup mieux que les autres États qui finalement ont suivi une politique plus préconisée par le président et qui finalement, encore une fois on l'a dit, a abouti à ne pas arriver à contrôler la première vague et un port du masque tardif, maintenant à U-turn, on le sait tous, hein. Maintenant ils sont tous en train d'essayer de rattraper les choses en demandant à la population de façon obligatoire de porter les masques, mais voilà, c'est trop tard, ce virus a pris le dessus.
Alors, question de téléspectateurs, qu'est-ce qui explique ces recrudescences dans des pays qui semblaient contrôler l'épidémie, Martin Blachier ? Est-ce qu'il y a un côté chance ou est-ce qu'il y a des choses qui s'expliquent ?
Bah déjà, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les pays, c'est plus dur pour un pays qui n'a jamais connu de vague épidémique de contrôler parce qu'il est encore plus sensible à l'épidémie du fait qu'il n'y a jamais eu de contamination. Hein. Donc, il n'y a vraiment aucune immunité collective et en plus, il n'y a aucun, il n'y a pas d'empreinte psychologique de l'épidémie sur les comportements. Donc, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans le sud des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas eu cette première vague. Donc, au moment où l'Europe, New York et l'Asie étaient touchés, eux, il ne se passait rien. Et puis en fait, au moment où tout le monde a commencé à parler de déconfinement, c'est arrivé chez eux. Et en fait, ils ont été un peu pris à contre-temps. Et donc, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que vous avez des pays qui ont été un peu atteints dans la deuxième période. Et là, effectivement, ils ont eu du mal, puisqu'il y avait déjà eu un peu la période des confinements qui était passée. Et ils ont pas voulu se reconfiner tout de suite. Donc, il y a une espèce d'imbroglio qui fait qu'ils se sont mis à courir après l'épidémie. Et ils n'ont jamais réussi à contrôler. Mais je pense qu'il faut quand même dire, aujourd'hui, il y a des signes d'optimisme, quand même. Le masque fonctionne. C'est quand même une bonne chose. Et y a beaucoup de pays qui ont réussi à contrôler avec des mesures type masque et éviter les grands événements. Donc moi, je pense qu'on est tout à fait capable de contrôler la situation, de reprendre une vie et d'éviter tous ces reconfinements, toutes ces catastrophes avec le masque et éviter les grands événements, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient publics. Je pense que les États-Unis, maintenant, vont être capables de rattraper leur retard.
Vous nommez Garban, ceux qui cet été se réjouissent d'aller revoir leur famille en Algérie, en Espagne. Le Premier ministre nous a recommandé de ne pas aller en Espagne ou aux États-Unis. Bah, il faut oublier, c'est très difficile.
Effectivement.
Vous n'iriez pas, vous, en Espagne, par exemple, cet été, là à Barcelone?
Alors, je dois aller à un mariage en Espagne.
Non. Alors là, ça, c'est...
Je vais mettre
ça, c'est retort.
Non. Je crois qu'effectivement, il faut être prudent lorsqu'on se décide d'aller dans une région où le virus circule de façon importante. D'abord parce qu'effectivement, on prend un risque pour soi-même. Et puis surtout, évidemment, on risque d'être coincé s'il y a un confinement important et que les aéroports ferment. Et puis, bah, quand on va rentrer, il faut être encore doublement prudent pour ne pas amener le virus avec soi. Donc c'est sûr que s'il n'y a pas obligation, et je comprends peut-être pour certaines affaires, pour certaines réunions internationales, on ne peut pas fermer totalement les frontières. Il sera nécessaire d'avoir des contacts. Néanmoins, pour des vacances touristiques ou pour des réunions familiales, on peut très probablement éviter ou en tout cas reporter à une période plus propice.
Et vous l'avez dit, en plus, beaucoup de gens craignent d'être coincés ensuite à l'étranger.
Tout à fait, je crois que c'est la crainte principale.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. La crainte d'être mis en isolement durant plusieurs semaines n'incite-t-elle pas les gens à éviter de se faire tester ? Joël Wiesmann.
Oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'ils viennent pour des symptômes, donc qui peuvent être du Covid ou pas. Mais dès qu'on commence à parler de... J'ai une patiente, il n'y a pas longtemps, qui s'est mise à pleurer. Enfin, j'ai l'impression que je lui avais annoncé qu'elle avait un cancer. Parce qu'il fallait faire le test PCR. Mais elle me dit, mais vous ne vous rendez pas compte, pendant deux semaines, je ne pourrais plus voir personne. C'est parti. Et je me suis dit, probablement, c'était ce qui s'était passé avec le confinement. Alors du coup, ils n'ont plus de symptômes. Finalement, elle va mieux. Bon, alors, il faut du temps pour leur expliquer que même si aujourd'hui, elle va mieux, hier, elle n'allait pas bien. Il y avait un 38,5, il y avait des courbatures, donc il faut faire le test. Ils y reviennent toujours. Hein. Dans un deuxième temps, ils disent qu'ils iront faire le test. Mais en effet, vous avez tout à fait raison. Et puis, cette lenteur de prise de rendez-vous de test et des résultats, je pense qu'il faut être très rapide. Il faut qu'on puisse avoir des tests et avoir des résultats en 24, maximum 48 heures.
Mais Anne-Claude Crémieux, c'est un problème, ça. Beaucoup de gens, effectivement, vont refuser de vouloir se faire tester. Quand on est jeune, à quoi bon me faire tester si c'est pour m'emprisonner 14 jours ensuite ?
Alors, bon, je pense qu'on va déjà, avec toutes les connaissances qui s'accumulent là-dessus, on va pouvoir déjà diminuer la durée de confinement, parce qu'on sait que finalement, c'est les 8 à 10 jours après l'apparition des symptômes qui sont vraiment des
contamination. Ouais,
là où le virus peut effectivement être transmis. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Deuxièmement, je pense que les gens sont assez altruistes. Moi, je suis très optimiste. Quelqu'un qui est infecté, il nous dit ça pour le coronavirus, il nous dit ça pour l'infection à VIH. Ils ne veulent pas contaminer les autres. Quand ils reviennent à la maison, ils ne veulent pas contaminer leurs enfants, ils ne veulent pas contaminer leurs hommes ou leurs femmes, et ni leurs collègues. Donc oui, il faut compter là-dessus. Il faut compter. Mais effectivement, on ne va pas mettre tout le monde en quarantaine. On ne va mettre en quarantaine que les gens qui sont porteurs du virus, d'où l'importance du test. Et vite.
À ce rythme, n'aura-t-on pas atteint l'immunité collective avant la mise sur le marché d'un vaccin ? Martin Blachier, est-ce qu'il y a des pays qui vont commencer à s'en approcher ? Des régions en France ?
Je ne pense pas. Je pense pas. Parce
rappelez-nous le principe.
Le principe, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous avez suffisamment de gens qui sont immunisés, si l'immunité dure, moi je pense qu'elle dure, mais si elle dure, à ce moment-là, le virus ne peut plus se transmettre de personne à personne, puisqu'il y a trop de gens qui sont immunisés, donc au bout d'un moment, les chaînes de contamination sont cassées d'elles-mêmes. Donc ça, on estimait que c'était autour de 60%, c'est probablement en dessous. Il faut dire que même avec un petit niveau d'immunité collective, 20-25%, avec quelques mesures barrières, vous arrivez à contrôler l'épidémie. Mais là, je pense que vu la force qu'on met pour contrôler l'épidémie, l'immunité collective, elle doit vraiment progresser très très lentement. Et je pense qu'on n'arrivera pas à l'immunité collective avant un vaccin.
Oui, j'allais dire, on a l'expérience suédoise, puisqu'en fait, c'est le modèle qu'ils ont choisi, c'est-à-dire laisser courir l'infection en espérant obtenir une immunité collective suffisante. Et finalement, en résultat, ils ont une immunité collective pas tellement plus élevée que nous. Par contre, ils ont un des taux de décès rapportés à la population le plus important en Europe.
Je veux juste une remarque là-dessus. Si jamais ils ont un taux d'immunité collective qui n'est pas très haut, ça veut dire qu'ils n'ont pas laissé le virus courir tant que ça.
Oui, mais...
Ils avaient protégé les EHPAD et les maisons de retraite.
Alors justement, observe-t-on une recrudescence des cas de Covid dans les EHPAD ? Là, pour le coup, donc, le virus est extrêmement dangereux.
Alors effectivement, dans les dernières données de Santé publique France, il y a effectivement une petite augmentation des personnes âgées infectées. Alors ça, il faut le surveiller vraiment comme le lait sur le feu, parce que c'est vraiment là où le virus peut faire des ravages. Il faut faire des tests, on en revient, mais vraiment répéter dans les EHPAD, parce qu'on sait que dès qu'il y a un cas, ça veut dire qu'en réalité, 20%, 30%, 40% du personnel soignant et des personnes qui sont en résidence peuvent être infectées.
Sommes-nous tous condamnés à être affectés un jour par le Covid-19 ? Martin Blachier, si on l'a pour des années ?
Oui, je pense. Je pense que si jamais il n'y a pas de vaccin, on sera tous à un moment affectés par le SARS-CoV-2, je pense.
Et le pire, ce serait qu'il revienne chaque année en mutant, et donc on n'en serait jamais débarrassé, là, comme la grippe saisonnière.
Je crois que c'est un virus qui mute moins que le virus de la grippe. Il est plus stable que le virus de la grippe. L'alternance de cycles épidémiques comme ça, avec des virus qui changent, je ne suis pas persuadé que ça se verra avec le coronavirus, mais qui sait ? Je crois que personne ne sait vraiment.
Faut-il être pessimiste ou optimiste pour les fêtes de fin d'année ? Est-ce qu'il va nous gâcher Noël 2020 ?
Non, je crois qu'il faut rester optimiste. Évidemment, surtout si on a reporté son mariage en juin et qu'on ne puisse pas le faire cette année, ça va être terrible. Non, je pense qu'il faut rester optimiste. En tout cas, par exemple, pour donner quand même un chiffre un peu plus optimiste par rapport à tout ce qu'on a dit, on va dire, on note malgré tout aujourd'hui très peu de cas d'hospitalisation dans les hôpitaux et dans les réanimations.
Alors, ça a cessé de diminuer.
Ça a cessé de diminuer, mais ça reste très bas.
Ça ne remonte pas.
Donc, en fait, c'est-à-dire, ça montre que la situation peut être parfaitement contrôlée. Donc, c'est un argument pour encourager les gens maintenant à mettre vraiment très rigoureusement en pratique les mesures barrières et le port du masque. Et il n'y a aucune raison pour moi que les choses aillent vers le pire.
On se souvient d'Edouard Philippe qui disait qu'il ne faut absolument pas qu'on dépasse les 7000, on a que 7000 lits.
Réanimation.
Voilà,
on est bien 5000 lits, on est monté jusqu'à 7000.
Voilà, mais on est bien en dessous là, vous êtes très loin d'être de la saturation.
On va dire actuellement, il faut estimer par exemple en Île-de-France, il y a un patient nouvellement infecté par Covid par service de réanimation.
D'accord. Anne-Claude Crémieux ?
Oui, une note d'optimisme quand même. Effectivement, les mesures barrières, et notamment le port du masque, on en a assez parlé, la recherche des personnes infectées, leur isolement et les contacts doivent nous permettre de ralentir suffisamment l'épidémie pour attendre ce qu'on attend encore, même s'il n'y a jamais de certitude en médecine, c'est le vaccin. Et malgré tout, si vous voulez, bien sûr, je suis d'accord, on n'a pas de certitude sur le vaccin, mais jamais on a vu autant, je dirais, d'efforts pour arriver à trouver une voie vaccinale. Donc, quand même, il y a cette perspective et il faut gagner du temps.
Une phrase là-dessus, sur la fin de l'année, si je dois faire de la projection à la fin de l'année, je pense qu'à la fin de l'année, on aura trouvé le point mort dont vous parliez au début, c'est-à-dire le niveau de mesures barrières exactes qu'il faut pour contrôler l'épidémie. Et à mon avis, on y sera dans pas très longtemps et on l'aura tous accepté, on va vivre comme ça. C'est-à-dire port du masque et éviter les grandes fêtes où on est sans et où on se crache au visage après avoir bu trop d'alcool.
Noël à 10, par exemple.
Noël à 10, d'accord.
Voilà. C'est l'hypothèse la plus probable, c'est une maladie qui va devenir un peu chronique, avec des cas peu nombreux.
Et on aura appris à vivre avec.
Exactement. C'est l'hypothèse principale.
Les gens qui travaillent ne devraient-ils pas être prioritaires dans les labos par rapport aux voyageurs qui partent en vacances? Anne-Claude Crémieux, vous disiez c'est plus important d'aller à l'école que de faire des fêtes à 500. Bah, de la même façon, est-ce que ce n'est pas plus important?
Tout à fait. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très important pour l'économie. Alors, pour les employeurs, pour ceux qui travaillent aussi, notamment ceux qui n'ont pas pu travailler pendant le confinement, les entreprises qui ne marchent pas très bien parfois, c'est très, très angoissant. Alors, je pense pour les employeurs de ne pas voir leurs employés, mais pour les employés eux-mêmes, quand ils voient des délais d'attente et on en revient donc à ces tests, avec effectivement au bout de 15 jours, je ne sais pas moi s'il y a un intérêt de faire un test au bout de 15 jours. Hein.
C'est un manque de personnel, hein. c'est surtout ça qui bloque dans les labos.
Oui,
hein.
C'est en fait le prélèvement
qui est très compliqué.
Effectivement, oui, qui fait le bouchon. Ça va s'arranger, simplement, il faut aller vite, il faut être réactif. Et donc, ça, c'est clair que c'est les politiques, cette fois-ci, qui sont à la gestion.
Avant l'automne, voilà. Espérons.
C'est pourquoi le Premier ministre, le ministre de la Santé, a autorisé les personnels non médecins ou non infirmiers, donc tels que les étudiants en médecine, les aides-soignants ou les techniciens de laboratoire, à effectuer directement le prélèvement.
À mettre le coton-tige dans le nez. Une nourriture contaminée au restaurant peut-elle transmettre le coronavirus?
Jamais vu.
Y aura-t-il des dépistages dans les gares?
On l'espère.
On va en mettre dans les aéroports. Quid des stages de chant choral ou répétition chorale en milieu fermé? Les gestes barrières suffisent-ils à garantir la sécurité des participants?
Pas bon non. Ça, à mon avis.
Puis chanter avec un masque... Ouais.
Non, c'est le problème des boîtes de nuit et des chorales. Si on peut.
Mais il y a des tas d'activités qu'on ne pourra plus faire.
Pas tant que ça, mais c'est vrai que celles-là sont le risque maximum.
Si le nombre de clusters augmente, faudra-t-il envisager de fermer les frontières régionales entre régions?
C'est impensable, j'y crois pas.
Eh ben voilà, c'est sur cette j'y crois pas que se termine cette émission. Merci beaucoup Martin Blachier. Rediffusion ce soir à 22h40, on se donne rendez-vous pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.